Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors j'aimerais qu'on parle de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a décidé de faire passer l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Le gouvernement met en avant la nécessité de préserver le régime des retraites par répartition. Comment se positionne l'UDI sur cette réforme des retraites ?
Bon, écoutez, je pense qu'il faut arrêter d'être totalement hypocrite sur cette réforme. L'UDI, comme LR d'ailleurs, a soutenu Valérie Pécresse qui propose une réforme à 65 ans. Le président de la République propose une réforme à 65 ans, il est aujourd'hui à 64 ans. Tous les ans, la majorité sénatoriale, LR et UDI, propose un amendement visant peu ou prou à faire ce qu'est cette réforme qui n'est jamais acceptée. Donc, pour le coup, c'est pas parce que c'est le gouvernement et Emmanuel Macron qui fait quelque chose alors que nous ne sommes pas dans la majorité, qu'il faudrait se positionner contre. On voit bien que c'est un positionnement qui est très politique. Et puis, sur le fond, on est aussi, j'ai envie de vous dire, tout ça pour ça, sur une réforme qui joue sur très peu de choses. La réalité, c'est que les 43 annuités, elles existent déjà. Je rappelle que c'est la gauche, Marisol Touraine et Monsieur Hollande, qui ont imposé les 43 annuités à compter de 2035. Ce que fait cette réforme, c'est de l'avancer à 2027. Mais tous les députés de gauche aujourd'hui qui donnent des leçons à la terre entière, il y a 6 ou 7 ans, ils ont voté le report à 43 ans, à 43 annuités de travail pour avoir une retraite à taux plein. Donc on voit vraiment qu'on est sur un très mauvais numéro d'acteurs. Ce qui est important de cette réforme, c'est que le gouvernement, par contre, entende les parlementaires et notamment les propositions qui sont faites à l'UDI par Hervé Marseille pour mieux accompagner les carrières longues, parce que là, il y a des trous dans la raquette, pour mieux tenir compte de la pénibilité, pour mettre un véritable accompagnement du taux d'emploi des seniors qui est extrêmement faible en France sur les plus de 60 ans. C'est faible dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, mais particulièrement en France. Et puis, réparer ce qui a été fait, qui est une injustice aux femmes. Mais tout ça, c'est des choses qui peuvent se traiter par voie d'amendement si le gouvernement veut bien entendre ceux qui sont prêts à travailler avec lui sur ce sujet.
On va parler de l'emploi des seniors dans un instant, mais je reste sur le fond du dossier. Pourquoi cette réforme vous paraît-elle nécessaire ? Est-ce que c'est parce que le système par répartition est en danger ? Aurore Berger, la chef des députés Renaissance, affirme qu'on est déjà en déficit pour les retraites cette année, mais la gauche nous parle du président du Conseil d'orientation des retraites qui dit qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour le déficit.
Oui, et où dans le même temps, il dit qu'il y a un problème sur les recettes. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut augmenter les prélèvements, c'est-à-dire ce qui est pris sur les entreprises, ou baisser le montant des pensions. Ce qui n'est pas le choix qui a été arrêté par le gouvernement et qui n'est encore une fois pas le choix que nous faisons à l'UDI. Nous, notre logique, c'est plutôt de garantir, voire d'augmenter le niveau des pensions de retraite. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas vivre constamment à crédit. Et quand on nous annonce un déficit de l'ordre de 13 milliards sur le régime de retraite à horizon 2027, c'est quelque chose qui effectivement pose un problème et qu'on ne peut pas ne pas traiter. Ne pas traiter ce problème-là, c'est vivre à crédit. Alors nous, on peut vivre à crédit. Le problème, ça sera pour nos enfants. Alors vous me direz que la question de la génération d'après, on peut être totalement court-termiste en politique et s'en moquer comme de l'an 40. Bah, en responsabilité, on estime que c'est pas quelque chose de possible et de cohérent. Et encore une fois, moi j'inviterais tous mes amis de la droite et du centre qui ont soutenu Valérie Pécresse, qui proposait une retraite à 65 ans, qui tous les ans vote l'amendement proposé par un sénateur LR qui propose peu ou prou ce qui est dans la réforme des retraites, à pas faire de la politique politicienne sur ce sujet. Et il ne faut pas transformer la question qui est posée. La question qui est posée, c'est pas pour ou contre le président de la République, c'est pas un remake de l'élection présidentielle. C'est est-ce que cette réforme va dans le bon sens ou pas. C'est quelque chose qui est défendu par tous les partis de droite et du centre depuis des années. On est un des pays européens avec le départ le plus tôt et le moins d'annuités de travail dessus. On voit bien que c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Alors après, dans le même temps, qu'on tienne compte plus qu'aujourd'hui des métiers pénibles et des carrières longues, c'est aussi une évidence.
Que Que répondez-vous à la gauche, Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui rappelle que cette réforme aura pour conséquence de faire baisser les pensions de retraite, puisque la moitié des seniors sont au chômage au moment de toucher leur pension?
La gauche a raison. Si le gouvernement ne met pas en œuvre ce que nous demandons encore une fois à l'UDI avec Hervé Marseille, c'est un véritable plan d'accompagnement du travail des seniors. On se rend compte que, globalement, dans les pays d'Europe de l'Ouest, le taux d'emploi des seniors de plus de 60 ans est de l'ordre de 45%, qu'en France, on est à peine plus de 30%, ce qui est encore plus bas que la moyenne européenne, qui est basse. Et là-dessus, on doit avoir un véritable plan d'accompagnement pour le travail des seniors auprès des entreprises. Ça peut se faire notamment au travers de dispositifs d'incitation fiscale pour les entreprises. Mais si on prend cette réforme telle qu'elle, sans l'améliorer, encore une fois, une réforme, le gouvernement, quel qu'il soit, vient avec un projet de loi et sa responsabilité, c'est d'écouter le Parlement. Et quand il y a des sénateurs ou des députés qui, au Parlement, font des propositions qui sont des propositions de bon sens, non pas pour bloquer, mais pour améliorer la réforme, eh ben, il faut les entendre. Et si le gouvernement, effectivement, n'entendait pas les propositions qui sont portées aujourd'hui par l'UDI, mais par d'autres groupes politiques également, on n'a pas le monopole des bonnes idées, même si on en a beaucoup, eh bien, ça voudrait dire que sur cette question de l'employabilité des seniors et de l'injustice que ça ferait porter sur les seniors, on serait dans le faux.
L'index senior prévu par Elisabeth Borne n'est pas suffisant pour vous?
Un index, très bien, donc on va faire des comptes, on va voir si c'est suffisant ou pas suffisant, et en bout de course, il y aura une médaille en chocolat. La réalité, c'est que ça, c'est pas suffisant. Moi, je pense qu'on peut parfaitement, encore une fois, c'est ce qu'on défend avec les sénateurs centristes, on peut parfaitement avoir un système de bonification fiscale en fonction du niveau de l'emploi des seniors. On peut faciliter fiscalement l'emploi des seniors. C'est aussi un moyen d'inciter les entreprises. Si on est sur un index qui va mettre 2 ou 3 ans à se mettre en œuvre, et puis derrière on va mettre 2 ou 3 ans à analyser les résultats de la mise en œuvre, et puis derrière on fera peut-être une commission ou un comité de réflexion pour savoir ce qu'il faut faire, effectivement, on n'aura pas traité le problème et on l'aura aggravé. Donc il faut qu'on soit très rapidement, sans faire de mauvais jeu de mots, en même temps que l'on porte cette réforme, sur des mesures d'accompagnement fortes pour permettre aux seniors de conserver ou retrouver le chemin de l'emploi.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, est-ce que vous imaginez concrètement qu'une infirmière, une aide-soignante dans un EHPAD, une caissière puisse travailler jusqu'à 64 ans ?
Mais tout ça, ça pose deux questions. Ça pose la première, qui est celle de la formation tout au long de la vie. On est aujourd'hui dans un pays où on a renoncé à former, à accompagner, à avoir plusieurs vies professionnelles en une. Et là-dessus, on est très mauvais. Et je pense qu'on a des progrès à faire, parce que, en fonction de ses âges de vie, en fonction de la formation professionnelle dont on doit pouvoir bénéficier tout au long de sa vie, on doit aussi pouvoir exercer plusieurs métiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des métiers qui ont une pénibilité et d'autres, si on se dit les choses aussi très clairement, qui n'en ont pas. Et dans des métiers qui ont des pénibilités, eh bien que on travaille pour pouvoir avoir des systèmes de dérogation, des systèmes d'accompagnement, et qu'à l'inverse, dans des métiers qui n'ont pas de pénibilité, eh bien on suit ce cap. Voilà, mais vous savez, on est dans un pays où on veut toujours la même chose pour tout le monde à la même heure. C'est totalement jacobin, c'est ce pays qui a été construit de cette manière. Nous, on préfère une logique de différenciation, on préfère une logique de pouvoir être à la carte. Et effectivement, qu'il y ait cette logique de 43 annuités et des 64 ans, très bien, très bien. Mais à l'inverse, sur des métiers qui ont une pénibilité, eh bien qu'on permette de partir plus tôt. Et puis également, qu'on facilite les reconversions professionnelles, qu'on facilite l'évolution tout au long de sa vie.
Jean-Philippe Dugoin-Clément, lors des journées de mobilisation, on voit des personnes qui manifestent pour la première fois, notamment dans les villes moyennes, ce qu'on appelle la France des sous-préfectures. Comment expliquez-vous la colère des Français, notamment dans la France périurbaine ?
Parce qu'on est sur une réforme qui a été extrêmement mal présentée, extrêmement mal vendue, et on a l'impression d'avoir un monstre froid qui ne fait l'objet d'aucune empathie. au lieu de parler des problèmes de fond, au lieu de parler de la question du pouvoir d'achat, au lieu de parler de la question du montant des pensions de retraite et donc du pouvoir d'achat des retraités aujourd'hui comme de demain, au lieu de parler des mesures d'accompagnement pour les personnes ayant commencé à travailler très jeunes ou ayant eu des métiers extrêmement durs, on s'est uniquement focalisé sur la question de l'âge des 64 ans. Et puis, il faut dire aussi les choses, on a aujourd'hui une gauche qui a un discours assez irresponsable. Encore une fois, la gauche a voté il y a moins de 10 ans l'allongement à 43 annuités. 43 annuités pour partir à taux plein, si vous avez démarré à 21 ans de travailler, eh bien vous finissez à 64 ans. Ça a été voté par tous les députés de gauche il y a de ça moins de 10 ans. Ça les a pas choqués. Aujourd'hui, ils poussent des cris d'orfraie. C'est quelque chose qui est assez malsain. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi une volonté de la gauche et du Front National, dont Marine Le Pen est passée d'un souhait de report à 65 ans de l'âge de la retraite il y a 5 ans à quasiment un alignement sur la France insoumise aujourd'hui, qu'il y a une logique de mener un troisième tour dans la rue. Et on est aujourd'hui sur une France qui a peur, sur une France qui vit mal, sur une France qui subit l'inflation, qui a une peur profonde du déclassement, et où au fond, c'est la coagulation de l'ensemble de ces mécontentements. Mais si on prend les choses de manière très froide, très honnête, on est sur une réforme qui est totalement hors champ par rapport aux peurs qu'elle génère, mais qui a été, je pense, assez mal appréhendée, assez mal communiquée sur son lancement. C'est très dur. Hein. Le début est la moitié de tout. C'est en général ce qu'on a tendance à dire. Et quand vous commencez mal, quand vous enclenchez mal quelque chose, c'est dur de revenir dessus. Après, je pense qu'il faut aussi avoir une capacité de raison, de courage. Globalement, nous sommes un des pays d'Europe où on travaille le moins. La durée de vie augmente et on commence à travailler plus tard. Donc, la question globalement d'allonger un petit peu le temps de travail, je ne crois pas que ce soit quelque chose de choquant. On est le pays d'Europe le plus désindustrialisé, c'est-à-dire où la part de métiers durs, y compris si elle existe et qu'elle doit être prise en compte, est aussi la plus faible. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte des cas particuliers, mais on ne peut pas non plus, sauf à vouloir vivre totalement à crédit et prendre le risque d'affaiblir le cadre dont pourront bénéficier nos enfants dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ne pas tenir compte de ces réalités.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron peut susciter l'adhésion des Français sur sa réforme, ou bien il a perdu définitivement la bataille de l'opinion publique, puisque ce soutien que vous exprimez à la réforme des retraites est assez minoritaire aujourd'hui dans le pays?
Oui, je suis pas convaincu là-dessus qu'il puisse avoir une inversion totale de l'opinion publique. C'est une mesure qui, par nature, n'est pas quelque chose qui fait plaisir. On voit bien que les démagogues de tous bords essayent de surfer dessus pour hérisser les colères, les peurs. Voilà, je pense qu'on est sur quelque chose qui n'est pas forcément acquis sur le niveau de rejet de cette réforme. Voilà, mais pas convaincu qu'on arrive à avoir 50, 55 ou 60% de gens qui soient favorables. Maintenant, vous savez, si un gouvernement quel qu'il soit ne devait faire qu'en fonction des sondages, on aurait encore la guillotine aujourd'hui. Hein.
Alors, les syndicats menacent de bloquer le pays peut-être à partir du 7 mars. Ce serait une grève reconductible. Pour l'instant, c'est un peu le flou. Est-ce que vous êtes inquiet de voir le pays totalement bloqué ?
Oui, je suis inquiet parce que quand on bloque le pays, on affaiblit le PIB. Quand on affaiblit le PIB sur un pays qui est déjà économiquement très fragilisé par les deux années de Covid et la crise énergétique que nous vivons frontalement depuis le mois de février dernier, et où nous sommes un des pays où nous avons le plus de dispositifs d'aide et d'accompagnement qui ont été mis en place au monde, eh bien on prend le risque de fragiliser encore plus l'économie. Fragiliser l'économie, c'est créer de la pauvreté. Donc je suis très inquiet de ça. Après, je pense que si les syndicats vont sur des blocages durs, et c'est aussi pour ça qu'ils ne l'ont pas fait et qu'ils sont très divisés dessus, ils prennent le risque de voir l'opinion se retourner. Et dans les éléments que le président de la République peut peut-être viser aujourd'hui pour avoir justement ce que vous évoquiez, un retournement de l'opinion, ou en tout cas une opinion qui se détache un petit peu des revendications des syndicats, c'est d'avoir des phénomènes de radicalisation. Et on voit bien les différences de ligne entre les centrales syndicales, entre celles qui sont extrêmement prudentes parce qu'ils considèrent qu'ils doivent aussi traiter l'opinion, et puis ceux qui sont dans une logique de dire « on va prendre en otage les Français ».
Alors, on parle moins de l'inflation, même si vous venez d'évoquer à plusieurs reprises la question du pouvoir d'achat et notamment les prix de l'énergie. Il y a quelques semaines sur Radio Orient, vous parliez de bombes à retardement. Est-ce que la situation vous inquiète toujours autant?
Oui, oui, bien sûr. Enfin, les Français commencent à prendre la vague, hein. Les augmentations du prix de l'électricité pour les particuliers, c'était au 1er janvier. Depuis novembre-décembre, on se rend compte qu'énormément d'entreprises, de commerces, de TPE sont fragilisées. On se rend compte que des communes ferment aujourd'hui des services publics. C'est des haltes garderies qui ferment dans des communes. C'est des réductions de places de crèche dans d'autres. C'est un recours à la fiscalité locale pour venir permettre de payer tout simplement le chauffage dans les écoles qui sont faits par beaucoup de communes. Et c'est quelque chose qui contribue appauvrissement, cette réduction du pouvoir d'achat des Français à une colère, à une ambiance assez morose généralisée qui contribue à rendre extrêmement difficilement acceptable pour une partie de l'opinion cette réforme des retraites. Et moi, je vous avais dit il y a quelques mois qu'on allait vers un mur pour beaucoup de familles, pour beaucoup de Français dans leur vie privée, mais également dans leur vie professionnelle. Parce que quand votre entreprise est fragilisée, bah, c'est des risques de licenciement, c'est des primes qui tombent pas, c'est des heures supplémentaires qui ne sont pas données. Donc, c'est aussi un pouvoir d'achat qui se réduit de ce côté-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans le dur, oui.
Alors, vous qui êtes en charge du logement au Conseil régional d'Île-de-France, est-ce que le bouclier tarifaire est maintenant appliqué dans les HLM, puisque c'était une inquiétude il y a quelques semaines, quelques mois?
Alors, normalement, il doit l'être à effet rétroactif à compter du mois de février. Donc, on va regarder effectivement comment c'est mis en place et si c'est bien mis en place là. Mais la problématique du chauffage pour les logements sociaux et pour les copropriétés privées est majeure, oui. Et c'est encore pire pour les copropriétés privées que pour les bailleurs sociaux, qui souvent sont beaucoup plus fragilisés, ont beaucoup moins de marge de manœuvre que ne peuvent l'avoir les bailleurs sociaux.
Et là, au cœur de l'hiver, vous voyez des gens qui arrêtent de se chauffer?
Oui, oui, il y a beaucoup de gens. Moi, si je prends l'exemple de ma commune, à Mennecy, les gymnases sont à 14 degrés, on n'y a plus de chauffage dans les vestiaires et plus de douche. Voilà, et on éteint l'éclairage la nuit parce que c'est le seul biais pour essayer d'éviter. Vous savez, si on avait dû transférer en impôts l'augmentation du prix d'électricité pour nous, c'était presque 25% d'augmentation cette année des impôts locaux. Voilà, donc chose qu'on ne fera pas, mais ça veut dire effectivement qu'on est sur des arbitrages très durs et beaucoup de gens, beaucoup de particuliers sont amenés à le faire aussi. Vous savez, la paupérisation générale de la société, elle est là, la réduction du pouvoir d'achat, elle est là. Et au fond, pour moi, le problème de fond, c'est pas cette question de réforme des retraites où on cherche à cliver et à faire des faux problèmes là où il y en a pas, où on est dans un mauvais numéro d'acteur de part et d'autre. Le problème, c'est la tension sur le pouvoir d'achat. C'est des gens aujourd'hui qui travaillent et qui n'arrivent plus à vivre. C'est des retraités qui touchent leur pension et qui, avec le montant de leur pension, n'arrivent pas à vivre. Le problème, c'est pas de se dire qu'il faille travailler 3 ou 6 mois de plus quand on n'est pas cassé par la vie et par son travail. C'est est-ce que le travail ou est-ce que la retraite permet de vivre? Ça, c'est un vrai sujet.
Merci Jean-Philippe Dugoin-Clément. Je rappelle que vous êtes maire UDI de Mennecy et vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.